Ni permabère, ni permaboule, juste pragmatique. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition du Top Gun. Dernière édition du Top Gun avant 4 petits jours de vacances. Et oui, c'est ma période de vacances annuelle. 4 jours par an pour toujours rester sur le pont au plus près de l'action des prix. Mais là, je vais partir me reposer. Et donc, je vous retrouverai à la fin du mois d'août. Et j'ai voulu terminer par des réflexions, une vidéo un peu spéciale. Je ne suis pas permaboule. Je ne suis pas permaboule en analyse de marché. Je ne suis pas permaboule sur le marché action. Je ne suis pas permaboule de manière générale sur les marchés financiers. Par exemple, vous savez que j'accompagne et je vous ai fait une vidéo spéciale en juillet sur le cours du Bitcoin, le bear market cyclique du cours du Bitcoin depuis le mois d'octobre dernier. D'ailleurs, au passage, septembre-octobre sera une opportunité et ça, je vais revenir massivement vous en parler à la rentrée. Donc, patience d'ici là. Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de mettre dans des cases les analystes de marché. Un tel est permaboule, un tel est permabère, et chacun a son analyste favori. D'ailleurs, il n'y a pas de sujet, c'est même pas une question de biais, c'est souvent une question de business. Être permabère, c'est vendeur. C'est ce que montrent toutes les études. Toutes les études qui ont été faites autour de ce qu'on appelle les social media, les réseaux sociaux, et en particulier YouTube, là où on peut publier du contenu de marché, parfois du contenu rédigé, des newsletters, du contenu vidéo, tout ce que vous voulez. Là où vous avez les meilleurs chiffres d'audience, les meilleurs chiffres de vente, les plus gros téléchargements, sont les analyses baissières, celles qui vous annoncent le crack mois après mois, année après année, décennie après décennie, à mesure que finalement le marché ne cesse de monter. Donc, alors certains ont pu par exemple me mettre moi dans la catégorie des permaboules, ce qui est d'ailleurs absolument pas vrai, puisque le fait de dire que les corrections à court et moyen terme sont des opportunités de se placer dans la tendance haussière de fond n'est pas être permaboule. Il y a des phases de marché baissier. Il y a des phases de marché baissier, comme par exemple fut à l'époque le marché baissier de l'année 2022. D'ailleurs, c'est la dernière fois, c'est le dernier grand marché baissier connu sur le marché action, c'est celui de 2022. Entre-temps, il y a eu des corrections parfois de quelques semaines, mais qui ont été très rapidement payées. Moi, mon approche, c'est pas l'approche d'avoir un biais, c'est pas le choix d'un positionnement psychologique pour attirer de l'audience. C'est une approche que je qualifierais de méthodologique, réaliste et pragmatique. Permabear versus permaboule. Vous connaissez forcément, parmi les analystes que vous suivez, les analystes qui répètent à chaque fois que le marché va s'effondrer. Bien, effectivement, c'est eux qui attirent le plus d'audience, qui captivent le plus en mettant en avant ce qui est négatif, mais c'est pas la bonne approche. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un permabear? Qu'est-ce que c'est qu'un permaboule? Le permabear,
cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Un analyste qui va chercher, dans toutes les données qui sont à sa disposition, à mettre en avant ce qui est négatif et à mettre sous le tapis ce qui est positif. Le permaboule, attention, aura le même comportement mais à l'envers. Il va mettre en avant ce qui est positif et mettre sous le tapis ce qui est négatif. Moi, j'essaie d'être ni l'un ni l'autre, d'avoir une approche pragmatique, réaliste, d'utiliser une combinaison de signaux fondamentaux et techniques pour mettre en avant eh bien, ce que j'estime être la tendance de fond. Donc pour moi, c'est celle-là qui domine. Et si cette tendance de fond eh bien, se retournait à la baisse, j'aurais aucun problème à vous dire que les rebonds se shortent. Mais eu égard au fait que, pour le moment, que ce soit sur le plan fondamental ou technique, la tendance de fond est haussière, les corrections sont donc des opportunités à court terme. C'est bien ça la différence. Un marché baissier, les rebonds sont des opportunités de shorter. Et un marché haussier, les corrections sont des opportunités d'acheter. La configuration actuelle du marché, et peu importe la séance d'aujourd'hui, encore une fois, c'est celle d'une tendance haussière de fond. Donc dans cette édition du Top Gun, je vais commencer par ça. On va regarder ensemble les principales caractéristiques de ces deux camps qui s'affrontent, permabear, permaboule. D'ailleurs, peut-être que vous avez un avis sur moi, mon positionnement, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Moi, je pense m'inscrire davantage dans le réalisme, le pragmatisme et la méthode. Je vais en dire un mot. Alors ensuite, un autre sujet qui est important. Au-delà de ce positionnement, il y a aussi, bien sûr, l'opposition entre être pessimiste et être optimiste. Moi, effectivement, je vais être ni permabear ni permaboule, mais je vais clairement, oui, avoir tendance à être optimiste. Ça, c'est vrai. Et vous savez quoi? Les statistiques parlent pour moi. Les chiffres parlent pour moi. Les études sont en ma faveur. En fait, simplement, les statistiques historiques des marchés boursiers. Donc, je vais parler de ça, de l'optimisme en bourse. Alors, me criez pas dessus si, par exemple, aujourd'hui ou demain ou le moment où vous regardez la vidéo est une séance baissière. peu importe ce que fera le marché aujourd'hui ou cette semaine, avec cette discussion que nous allons avoir. Mais comme d'habitude, comme c'est le Top Gun, je vais aussi vous faire ma mise à jour de l'analyse technique du S&P 500, ma mise à jour de l'analyse technique du S&P 500 en termes de valorisation. Vous allez voir, c'est passionnant parce que malgré le fait que depuis début août, le S&P 500 a fait un nouveau record, son prix fondamental baisse. Donc ça aussi, c'est intéressant. Moi, écoutez, je cesserai de dire que la tendance de fond, je cesserai de dire que les corrections court terme sont des opportunités lorsque la valorisation sera arrivée en seuil d'euphorie et d'excès. Je cesserai de dire que les corrections court terme sont des opportunités lorsque la valorisation et l'euphorie sera dans zone d'excès. Ce qui n'est pas le cas puisque ça a même baissé cette valorisation. Vous allez voir. Un mot sur l'action SpaceX. Rappelez-vous, en juin, je vous avais fait une vidéo Top Gear en vous expliquant qu'il fallait surtout pas participer à l'introduction en bourse. Là aussi, l'histoire boursière des IPO à Wall Street parlait contre SpaceX qui a perdu 50%. Mais qui tente de stabiliser depuis après s'être approché des 100 dollars. Est-ce maintenant le bon moment sur le plan des fondamentaux? Et puis voilà, chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Ni permabère, ni permaboule, juste pragmatique, réaliste et méthodologique. Ah, on est pas mal les amis là, alors que les vacances approchent, je m'en vais du 20 au 26 août, donc je vous retrouverai à la toute fin du mois d'août pour la prochaine édition du Top Gun. Chers amis, je vous confie le marché, sécurisez-le bien. Donc, ni permabère, ni ma boule, mais qu'est-ce que c'est que cette expression qui sort de nulle part? Je vais aborder mon approche et puis essayer de me sortir de l'une de ces deux cases. Par exemple, sur le Bitcoin, je ne suis pas permabear depuis le mois d'octobre dernier. Je suis cyclique. J'ai une approche cyclique. Et Bitcoin, c'est un cycle de 4 ans, 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Donc être baissier pendant un an n'est pas être permabear, c'est juste s'inscrire dans un cycle. Je ne suis pas permaboule sur le marché action. Je vous dis simplement donc que les corrections court terme, quelques séances, à parfois quelques petites semaines, sont des opportunités parce que d'un point de vue des fondamentaux, nous n'avons pas les caractéristiques qui avaient déclenché le point de départ de grands marchés baissiers et notamment des phases d'excès massif de valorisation. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est parti, on attaque cette nouvelle édition du Top Gun. Permabear versus permaboule, deux camps s'affrontent. D'ailleurs, au passage, vous l'avez noté que depuis quelques vidéos maintenant, j'ai optimisé le montage des vidéos en supprimant les phases de silence pour avoir des vidéos plus fluides, plus dynamiques, un peu dans le rythme que vous propose Thomas, sans bien sûr pouvoir l'égaler. Donc, permabear versus permaboule, deux camps s'affrontent. Effectivement, c'est souvent comme ça d'ailleurs que les analystes se positionnent. Moi, je pense qu'il faut être ni l'un ni l'autre. Alors parfois, c'est aussi un biais qui s'impose à nous. Ça peut être aussi une stratégie de monétisation. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais en introduction, eh bien, tous les contenus, mais d'ailleurs, ça ne concerne pas que la bourse. De manière générale, l'information, de manière générale, et ça, toutes les études le montrent, c'est juste statistique. Ça ne se discute même pas, en fait, puisque tout ce qui est mathématique ne doit pas se discuter. Ah, sinon, c'est un positionnement idéologique. Or, l'idéologie face aux mathématiques, ça ne vaut rien. Et si nos sociétés se laissent guider par l'idéologie et non pas la raison, et parfois des choses évidentes et rationnelles, comme elles peuvent nous venir des mathématiques et de la statistique, nous allons aller droit dans le mur. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, ici, le permabear versus le permaboule. Le permabear voit principalement les risques. Récession, dette, inflation, bulle, valorisation excessive. Il anticipe régulièrement un crack. Alors, ce que vous connaissez dans votre entourage ou dans les analystes que vous suivez, et d'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous me suivez et je vous en remercie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui anticipe régulièrement un crack? Mais le plus important, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'être un permabear? Être un permabear, c'est faire de l'analyse de marché, c'est faire de la recherche, mais pas de la recherche, si vous voulez, partiale. Pas de la recherche neutre, pas de la recherche factuelle. Le permabear cherche un certain type d'information. Il cherche les signes, les données fondamentales, les données techniques qui confirment son scénario baissier. Et tout ce qui est positif, eh bien, soit il n'en parle pas, soit il se met des œillères, soit pire, il les cache ou il ment, il les déforme. Philosophie dominante, le marché est trop cher, le crack arrive. Alors moi, je connais des personnes, bien sûr, je citerai aucun nom, hein. C'est une discussion très générale là, d'ailleurs je suis sûr que chacun parmi vous, tout le monde peut se positionner dans l'une de ces cases, ou pas d'ailleurs. Bon, mais finalement, on connaît tous je pense, des personnes, et d'ailleurs, moi, ça ne m'empêche pas de continuer à les suivre, mais que je suis depuis 5, 6, 10 ans, voire davantage, où je n'ai jamais vu une analyse positive. Je connais des analystes où je n'ai jamais vu une seule analyse positive. Jamais j'ai entendu ou lu de leur part « cet actif peut progresser ». Alors, éventuellement, l'or. Voilà, l'or, ça, éventuellement, le permabear peut être bullish sur l'or. Et encore, le collapsologue, non, parce que pour le collapsologue, tout va à zéro. Tout. Plus d'Internet, plus d'électricité, plus rien, tout va à zéro. Voilà. Ça, c'est même pas permabear, ça. C'est la fin du mondiste. Alors maintenant, on s'attaque au permaboule, qui lui aussi, eh bien, un peu, il est juste là, le permaboule, juste là. Il peut avoir des comportements. Il voit principalement les opportunités. Alors, ça va être intéressant. Le permaboule anticipe régulièrement la poursuite de la hausse et considère les corrections comme des opportunités d'achat. Oh là là, du coup, suis-je permaboule ? Puisque je considère les corrections court terme, c'est vrai, je considère les corrections court terme. Par court terme, je précise parce qu'on me le demande parfois, j'entends quelques séances à parfois quelques semaines, quelques mois, là on rentre dans quelque chose qui peut être la caractéristique d'un marché baissier, donc d'une tendance de fond baissière, il faut au minimum 6 à 7 mois. Ce que nous n'avons pas eu d'ailleurs depuis le marché baissier de 2022. Mais il y a une différence entre considérer les corrections comme des opportunités d'achat et chercher les signes qui confirment son scénario haussier. C'est-à-dire que le permaboule, en fait, c'est l'envers, c'est le contraire du permabear. Lui, il va chercher à nier, à ne pas voir, à cacher ou même à mentir, à déformer les informations baissières. Donc, je ne sais pas, le pétrole monte, le permaboule va vous dire c'est positif pour l'économie. Bon, un autre, voilà, il faut être réaliste. 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 Tiens, tenez, mets le doigt sur un adjectif peut-être intéressant. Réaliste. Moi qui considère que les corrections sont les opportunités d'achat, je ne vous dis pas que quand le pétrole explose à la hausse, que c'est haussier. Au contraire, ça peut entraîner des corrections court terme. Donc, et ça, je le mets en avant. Le permaboule, lui, il ne va pas en parler. Il va être là. Non, on s'en fout. Soit il n'en parle pas, soit il minimise. Voilà. Donc le risque principal, c'est de sous-estimer les retournements. Philosophie dominante, le marché monte à long terme, les corrections sont à acheter. C'est vrai que moi, je m'inscris, il est vrai, dans ces caractéristiques. J'ai beaucoup de points communs avec le permaboule, pour ce qui est du marché action, mais je ne le suis pas. Enfin, j'estime ne pas l'être. Enfin, j'essaie de ne pas l'être. Voilà. Voilà, je vais essayer, j'essaie le plus possible de ne pas l'être. J'essaie d'avoir une approche réaliste et pragmatique. Alors, je fais pas une vidéo sur ma méthodologie d'analyse parce que, je l'avais déjà fait d'ailleurs, mais il y a assez longtemps. C'est pour être d'ailleurs une idée de mise à jour. Mais tout simplement parce que moi, je vais m'adapter aux données. J'accepte l'incertitude. J'ai toujours en tête les deux scénarios qui sont possibles. Je distingue le prix de la valeur et je gère le risque. J'ai toujours conscience du risque. En fait, l'analyste réaliste et pragmatique se fie d'ailleurs aux données. Et il essaye de les prendre de manière factuelle, de peser le pour et le contre. L'image, si vous voulez, par exemple, d'une balance. Avec, donc, à gauche et à droite, vous allez mettre vos facteurs techniques, vos facteurs fondamentaux. Si la balance à gauche, les facteurs haussiers, et à droite, les facteurs baissiers, si votre balance part vers le bas pour les facteurs baissiers dominent, bien la tendance de fond est baissière. Et dans ces cas-là, les rebonds se sortent. Et au contraire, si vous avez davantage de facteurs aussi de fond, les corrections court terme sont des opportunités. Il s'adapte aux données, son scénario évolue lorsque les données macroéconomiques fondamentales ou techniques changent, il accepte l'incertitude, il ne prétend pas connaître avec certitude le prochain mouvement de marché et raisonne en termes de probabilité. Oui, parce que, par exemple, prenez l'analyse technique n'est qu'un modèle de probabilité. L'analyse technique, c'est pas parce que parfois l'analyse technique va se tromper qu'elle a tort. D'ailleurs, l'analyse fondamentale, l'analyse macro, l'analyse météorologique, tout peut se tromper. Ça n'invalide pas pour autant l'analyse. Ce n'est qu'un modèle de probabilité. Ça, c'est un modèle qui est intéressant dès lors que vous avez plus d'une chance sur deux. Donc si l'analyse fondamentale a raison dans 55% des cas, c'est mieux qu'une chance sur deux. C'est de l'analyse, il y a un apport. Si l'analyse technique a raison dans 57,8% des cas, et c'est pas que c'est nul. Tant que c'est au-dessus d'un sur deux, c'est bien. Voilà, ça apporte quelque chose. Si c'est une chance sur deux, ça n'apporte rien. Et machine à sous, lancer de pièces, aucun intérêt. Il analyse donc les deux scénarios, c'est-à-dire qu'il faut bien... L'analyse réaliste, pragmatique, méthodologique sait qualifier les facteurs. Et il sait surtout, même s'il a un biais, reconnaître là où se trouvent des facteurs de risque et de ne pas les sous-estimer. Il distingue le prix de la valeur, donc un marché peut-être cher sans nécessairement devoir craquer immédiatement, ou bon marché sans forcément rebondir à court terme. Alors ça, c'est quelque chose que j'applique souvent dans mes vidéos, vous le savez. Et il cherche à gérer le risque avant la performance, il accepte de se tromper, définit ses niveaux d'invalidation. Ça, c'est par exemple d'un point de vue technique, c'est souvent l'approche que j'essaie d'avoir avec vous, c'est-à-dire de vous dire, voilà, il y a des seuils techniques court, moyen, long terme, et au-dessus de ces seuils, la tendance est préservée. En dessous, il faut accepter qu'un signal de correction soit donné. Voilà, bon, donc ça me paraissait important de rappeler ça, ni permabear, ni permaboule, mais réaliste. Et maintenant, j'ai envie de parler d'autre chose, l'optimiste en bourse. Alors moi, effectivement, si je ne suis pas permabear et permaboule, eh bien, je suis effectivement quelqu'un d'optimiste. Alors, j'ai déjà une personnalité optimiste, moi j'adore ma vie, tous les matins je me lève, j'ai le smile, même parfois sans savoir d'ailleurs pourquoi, mais pour tout ce qui m'attend, tout ce qui va se passer dans ma journée, je n'ai pas besoin de problèmes personnels pour m'apitoyer sur moi-même et être heureux, ce qui est le cas de certaines personnes, vous en connaissez sûrement dans votre entourage, je n'ai pas besoin de problèmes des autres pour être heureux, vous connaissez sûrement dans votre entourage des personnes qui sont eux, vont passer la seconde dès que quelqu'un dans leur entourage a un problème, parce que bah, tout de suite, eux ils en ont pas, et ça leur donne, je sais pas, ça quelque chose qui ça leur donne de la valeur, ils se mettent en avant, ils sont contents limite que l'un de leurs proches ait un problème. Beaucoup de gens sont comme ça. Bref, moi je suis de nature optimiste. L'optimiste en bourse, il est soutenu par les statistiques historiques. Alors j'aime bien cette infographie qui nous vient de l'optimisme.com, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc le surréaliste, le pessimiste, le réaliste, le chimiste, l'optimiste, le relativiste, l'utopiste, le sceptique et l'artistique. Voilà. Donc moi l'idée, alors le permabear va être ici et le permaboule va être ici. Voilà. Il n'y a pas d'autres aspects des choses. L'idée, je pense, le bon analyste, c'est quelqu'un qui va justement avoir un peu une facette, peut-être pas l'utopiste, hein, parce que bon, là, il faut exagérer, hein, le S&P 500 n'ira pas à 50 000 points cette année. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'avoir eh bien, un peu de tout. En tout cas, moi, je m'inscrirais plutôt dans cette approche optimiste, réaliste. Alors, justement, l'optimiste en bourse est soutenu par les statistiques historiques. Oui, l'optimiste en bourse est soutenu par les statistiques historiques. Encore une fois, il s'agit pas là de dire que... Alors, effectivement, ce sont quand même des chiffres. Ce sont des statistiques, là, que vous allez voir dans un instant, qui sont quand même très défavorables au positionnement permabear. Et un peu plus au positionnement permaboule. Mais être permaboule n'est pas non plus le bon choix. Puisque dans ces cas-là, c'est faire fi des phases de marché baissier qui arrive, alors certes, pas très souvent à Wall Street, mais ça peut très bien arriver sur une action individuelle. Récemment, je vous ai parlé, par exemple, il y a deux semaines, du secteur des logiciels. Lui, il est en bear market depuis 5 ans. Voilà. C'est sûr que si vous êtes haussier sur les logiciels depuis 5 ans, vous avez fait l'erreur d'être permaboule. Voilà. Là aussi, il faut raisonner. Là, je vous parle des indices boursiers, mais il faut aussi avoir une approche sectorielle. Donc, mais effectivement, l'optimiste est soutenu par les statistiques historiques boursières. Vous allez voir. Donc, si vous prenez les années civiles, donc les années civiles du S&P 500 depuis donc 1926, donc vous avez à droite les sources et la période qui est concernée. Donc, la plupart de ces statistiques, elles viennent de Hartford Funds et certaines viennent de Dimensional. Voilà, donc vous avez ici les sources. Certaines viennent aussi de Morningstar, de FactSet, etc. Depuis 1926, 74% des années du S&P 500 ont été positives, 26% négatives. Vous allez voir, plus on avance, plus c'est intéressant. Donc, 38 années, vous avez eu 38 années avec une hausse supérieure à 20%, contre seulement 6 années avec une baisse supérieure à moins 20%. Période glissante de 1 an positive, 83% des périodes. Période glissante de 5 ans positive, 91% des périodes. Et vous avez là les données et vous avez là les plages temporelles qui sont étudiées. Donc c'est quand même 50 ans, 60 ans, voire davantage. Période glissante de 10 ans positive, 95% des périodes. Période glissante de 20 ans positive, 100% des périodes. 100% des périodes sur 20 ans. C'est tout le temps haussier. Alors là, effectivement, je pense aux analystes qui sont baissiers, que je suis depuis 10-15 ans, qui sont baissiers sur le marché action, ils ont contre eux quand même des statistiques qui sont massives. Période glissante de 10 ans positive, 95% des périodes. Quand on passe sur 20 ans, c'est 100%. Période de détention 10 ans positive, 98% sont positives. 2 sont négatives sur la période 1937-2025. Et enfin, dernière statistique intéressante, après un nouveau record historique, donc lorsque le S&P 500 fait un nouveau record historique, comme il a fait au début de ce mois d'août, le S&P 500 était plus haut 81% du temps après un an et 86% du temps après 5 ans. Lorsque le S&P 500 fait un nouveau record historique, ce qu'il a fait ce début de mois d'août, il était encore plus haut 81% du temps après un an, 86% du temps après 5. Donc ça, ce sont des statistiques. C'est un slide d'ailleurs, hop, j'enlève la petite vidéo si vous voulez faire pause et copier-coller, comme ça, ça vous donne les statistiques. Ce sont des statistiques qui, quand même, sont contre le positionnement permavert. Après, ça, c'est un raisonnement général sur le marché, sur l'indice boursier. Ça dépend des secteurs, ça dépend des titres. Je suis d'accord. Là, c'est vraiment une discussion générale. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que finalement, l'optimiste en bourse, pas le permaboule, hein, je distingue bien le permabert du permaboule de l'optimiste. Moi, je vais plutôt me mettre dans cette catégorie. L'optimiste en bourse, c'est pas celui qui vend le plus, c'est pas celui qui attire plus le chaland, c'est pas celui qui est le plus écouté, mais c'est quand même, au final, celui qui a les statistiques en sa faveur. Et finalement, peut-être celui qui a une approche, l'approche la moins idéologique, si vous voulez. Voilà, puisque moi, j'oppose vraiment le positionnement idéologique au positionnement idéologique, entre guillemets, hein, au positionnement rationnel, méthodologique, réaliste, pragmatique, enfin voilà, vous trouvez autant d'adjectifs là que j'ai sélectionnés qui me semblaient adaptés. S&P 500, analyse technique, donc là je vous dis un mot donc sur la situation technique du S&P 500, toujours trois horizons de temps, bah, écoutez, rien de nouveau sous le soleil, horizon de temps mensuel à gauche, horizon de temps hebdomadaire en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à gauche, et à droite, horizon de temps journalier. La tendance de fond reste haussière tant qu'aucun support n'est cassé sur cet horizon de monde, sur cet horizon de temps long, c'est-à-dire 7585 points, et à court terme, la tendance reste bullish tant que le marché tient les 7650 points. Il y a un décalage entre le moment où j'enregistre et où vous écoutez cette vidéo, entre le moment où j'enregistre et je publie cette vidéo aussi. Donc, ce que vous pouvez faire là, c'est aller voir sur TradingView le contrat futur S&P 500. Son code, son ticker, c'est ES1, point d'exclamation. ES1, point d'exclamation. Le contrat à terme mini S&P 500 est le contrat à terme le plus tradé de toute la finance occidentale. Eh bien, haussier sur l'horizon de temps hebdomadaire, tant qu'on tient les 7585 points, et à court terme, les 7650 points. Le seul signal négatif, ce serait de réintégrer le support des 7650 points. Et là, il y aurait un retracement en direction des 7400 sur cet indice S&P 500. Le contrat futur S&P 500. S&P 500, quel top final selon l'approche pragmatique et réaliste? Donc là, ça c'est quelque chose, moi, où en fait, je continue de vous dire que les corrections comptables sont les opportunités, parce que là, je vais donc vous mettre à jour où en est la valorisation du S&P 500. Ce S&P 500 qui a fait un nouveau record historique au début du mois d'août, et sa valorisation, elle, baisse. Je vais commencer, moi, à m'inquiéter lorsque le S&P 500 fera un nouveau record historique et que sa valorisation aussi pulvérisera tous les records. Et là, je vous dirais alerte rouge, d'accord ? Parce que ça deviendra tendu en termes de valorisation. Alors, on peut faire le bilan des résultats du second trimestre. J'arrive sur la valo, je vais vous la montrer. On peut faire le bilan des résultats du second trimestre qui sont juste incroyables. D'ailleurs, tout secteur confondu, croissance des bénéfices, 147% pour l'énergie, 117% communication services, consommation discrétionnaire 91%, information technology 70%, etc. Ça, c'est donc les résultats du second trimestre qui sont maintenant derrière nous. Et comme ces résultats du second trimestre ont été largement favorables, eh bien, le S&P 500 donc a fait un nouveau record historique, je viens de vous le montrer, mais regardez, sa valorisation, elle a baissé, c'est ça qui est incroyable, c'est que comme les profits réalisés là au T2 actés et les profits anticipés sont tellement élevés, il croît plus vite que le prix du marché. Donc par conséquent, le S&P 500 a fait un nouveau record, mais sa valorisation, représentée ici par le PE Forward, a baissé, a fait un nouveau plus bas et est revenu au niveau de la moyenne de ces 10 dernières années. Donc moi, dans quel cas de figure je m'inquiéterais si le S&P 500 faisait un nouveau record et qu'on avait une valo un peu forward ici? Là, je vous dirais, attention, on est au record, c'est en surchauffe, attention. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a du concret fondamental. Voilà. Il y a du chiffre d'affaires, il y a des hausses de chiffre d'affaires, il y a des hausses de profits. Voilà. Ce n'est pas pour autant que la situation géopolitique est complexe. Ça, c'est encore un autre sujet. Pour l'instant, je prends les faits. D'ailleurs, ça, c'est le PE forward. Je peux aussi vous montrer le PE classique. Le PE classique, alors lui, qui remonte forcément, mais qui n'est pas, alors, certainement pas son record historique de 2021 et qui n'est même pas son record établi ici en 2024-2025, même si lui aussi, donc, il est quand même en phase de remontée. Donc ça c'est passionnant. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi regarder le cap ratio ou payout chiller. Et moi, je continue de penser que le top final du S&P 500, encore une fois, qui s'accommode, peut très bien corriger cette semaine, ok, se fera lorsque l'on rejoindra le payout chiller, le record de 1999 à 44 points. Là, c'est le cap ratio du S&P 500. Ça, c'est sa version normalisée Z-score. Donc voilà, mais le record est là. Donc en fait, quand on regarde ça, plus le payoff forward, on n'est pas, le marché n'est pas en excès de valorisation. Voilà. Donc ça, ce sont juste des faits. Hein. C'est pas un positionnement permaboule, mais c'est juste voilà, utiliser quelques données qui me semblent si intéressantes. C'est-à-dire que ce n'est même pas. Alors, d'une certaine façon, c'est de l'optimisme parce que le problème payoff forward, c'est que ça repose sur les anticipations de profit. Mais en même temps, ces anticipations de profit, elles viennent d'être mises à jour suite aux résultats du T2, qui, eux, là, sont concrets et qui ont été très bons et qui ont explosé le consensus. Donc bon, il y a aussi des choses de... Voilà, l'optimisme aussi peut se justifier par cela. Alors, peut-être que vous êtes sceptique, bien sûr. En vous disant, mais non, c'est du doigt mouillé, ces anticipations de bénéfices, ça ne le fera pas. Ou peut-être que vous êtes pessimiste, parce que oui, ok, peut-être très bien... Il y a les résultats de la tech, les perspectives de profit, mais comme le détroit d'Ormuz peut rester bloqué pendant des années ou je ne sais pas quel autre problème géopolitique, bon voilà. Ok, donc, je continue ce Top Gun. Toujours pareil sur ces éléments-là. Là, ce sont des données que j'ai mis à jour, hein, bien sûr, avant de faire la vidéo. Donc, le PE Forward de l'industrie des semi-conducteurs qui appartient au secteur de la tech, pour vous montrer que malgré leur positionnement actuel sur le marché, eh bien les deux leaders que sont Nvidia, leader mondial des GPU IA, 80% de part de marché, Micron, un des trois leaders avec Samsung et SKNX de la mémoire vive IA, dite HBM, ont des PE forward extrêmement bas. Donc moi, là, je tirerais la sonnette d'alarme si, par exemple, Micron, Nvidia et AMD avaient un PE forward entre 30 et 50. Là, je dirais, attention, ça, c'est trop cher. Mais vous voyez qu'il y en a quand même encore un certain nombre qui sont souvent. Et ça fait quand même un paquet d'entreprises des semi-conducteurs avec un PE forward souvent. Donc, on n'est pas du tout dans une zone d'euphorie, d'excès. Donc, voilà, c'est pour ça que je me permets de rester optimiste, quand bien même le marché peut reculer à court terme, s'il a envie de reculer à court terme. SpaceX, peut-on enfin revenir à l'achat? SpaceX, peut-on enfin revenir à l'achat? C'est vrai que l'action SpaceX a fortement corrigé. Où est-ce qu'elle était, ma petite action SpaceX? Elle est là, je vais la retrouver. L'action SpaceX a corrigé de 54%. Alors, vous vous souvenez bien sûr, je l'ai déjà dit, la vidéo que je vous ai proposée en juin, en vous expliquant que c'était trop cher, parce que toutes les IPO à Wall Street depuis 2015, il y avait eu ce type de correction de 50-60%. La question qu'on peut se poser, alors que ça stabilise au-dessus des $100, c'est est-ce que désormais c'est intéressant? Est-ce que désormais on est à nouveau dans une zone d'intérêt en termes de fondamentaux? Et je vais vous dire que, à proximité des $100, bah oui. À proximité des $100, bah oui. Et c'est pas non plus de l'utopie ou de l'optimisme sur ce que être capable de faire SpaceX à l'avenir, conquête de Mars, etc. C'est juste de la valo. Voilà quelle était la valo de SpaceX en juin. Entre-temps, il y a eu les résultats publiés, donc ça permet d'ajuster. Son prix, c'était 95% ses ventes. Son prix, c'était 100 fois l'EBITDA. Bon, il n'y a pas de bénéfice, donc ça, il n'y a pas de forward. Maintenant, après 50% de baisse et les nouveaux résultats qui ont été publiés, eh bien, oui, c'est devenu tout à fait raisonnable en termes de rapport entre le cours de bourse et les ventes, de 95 à 35, et surtout en termes de cours de bourse par rapport à l'EBITDA, on est tombé à 25-30. Le PE forward, alors le marché anticipe maintenant des bénéfices, donc il y a un PE forward, il est élevé, ça c'est normal. Donc, moi, mon opinion, c'est qu'autour des $100 et sous les $100, oui, SpaceX est une opportunité. Si ça redrop en direction des $100, oui, c'est une opportunité. Surtout si au prochain résultat, eh bien, la boîte annonce enfin des bénéfices. On les temps forts, fondamentaux à venir, bien sûr, comme est le prix du pétrole, etc. Je vous en parlerai dans le Fast and Forex cette semaine. Là, c'est une semaine assez légère. Bon, la macro, la géopolitique. Ces chiffres-là sont tombés la semaine dernière, vous les avez suivis. D'ici la fête du 16 septembre, vous avez le PCE du 26 août, le PPI du 10 septembre, le CPI du 11 septembre. Bon, là, je serai rentré. Ça s'achève. cette nouvelle édition du Top Gun. Et je vous retrouve à mon retour de congé. Merci, salut.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.